BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, nos études de la semaine, nos chiffres aussi sur lesquels on a voulu attirer votre attention. N'oubliez pas tous nos comptes sur les réseaux sociaux, Instagram, X, Facebook, LinkedIn, YouTube, la librairie de l'écho pour retrouver les références précises de tous les livres dont on parle dans l'émission. Et tout de suite, place à nos invités. Trente ans de dégradation, 30 ans qu'ils coûtent de plus en plus cher et qu'ils sont de moins en moins performants. Pourquoi payons-nous de plus en plus de cotisations sociales et d'impôts alors que nous sommes de moins en moins bien soignés, protégés, éduqués et surtout une véritable modernisation de nos services publics? Vous avez compris que c'est d'eux qu'il s'agit. Pourquoi cette modernisation est-elle jusqu'à maintenant impossible? Peut-on enfin justement réinventer des services publics du 21e siècle? Comment et à quel prix? Réponse avec nos deux invités. Arnaud Bontemps, bonjour.
Bonjour.
Arnaud, vous êtes haut fonctionnaire, fondateur du collectif Nos Services Publics et vous publiez Services Publics ou Barbarie aux éditions La Découverte. Jean-Pierre Mongrand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du cabinet de conseil, notamment aux organisations publiques d'Inaction, et vous publiez Pour un Big Bang des services publics. Arnaud Bonjean, moi, j'aime bien toujours savoir de quoi on parle précisément. Quand on parle de services publics, de quoi on parle exactement?
Le service public, c'est une manière de répondre aux besoins de la population, qui est distincte de celle du marché. C'est un choix politique qu'on a fait historiquement de considérer des besoins comme essentiels, la santé, l'éducation, le transport, et donc d'y donner accès à toutes et à tous. Comment? En mettant de l'argent en commun, les impôts, les cotisations, un financement socialisé. Et donc en les sortant du marché, on a accès aux services publics non pas parce qu'on pourrait en payer le prix, mais parce qu'on en a fait un droit. L'école, si elle était dans le marché, elle coûterait en moyenne 900 euros par mois et par élève. On a fait le choix contraire en France. Mmh. On a dit, avec l'éducation, on ne joue pas. L'enjeu, c'est d'en faire un droit accessible à tous, à toutes et à tous. Et donc, par là, d'étendre le champ des libertés possibles, en l'occurrence d'émancipation pour la jeunesse, par exemple.
Alors, avant d'en venir au diagnostic sur quand même que vous partagez tous sur la dégradation de nos services publics, vous émettez un petit bémol, Arnaud. Vous dites, mais attention, il n'y a jamais eu d'âge d'or des services publics.
On parle souvent d'inventer, de réinventer, de réparer, de reconstruire les services publics comme si, en effet, c'était mieux avant.
Ouais.
Je crois que c'est faux. Les services publics, un des mythes qui les anime, c'est celui des hussards noirs sous la Troisième République, ces instituteurs qui venaient apprendre la République aux enfants de la population. En réalité, l'éducation s'arrêtait au mieux à 13 ans pour les enfants d'ouvriers qui avaient leur certificat d'études et qui allait tout de suite à l'école. Qui allait tout de suite à l'usine. Même en 1945, à l'époque de la généralisation de la sécurité sociale, où des fois on en fait un mythe, les retraites étaient de misère. Et on a eu des grandes périodes de socialisation des richesses, depuis la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 80, qui ont permis d'accroître très considérablement les services publics, leur qualité, leur place dans la population, mais ça a continué après. En 80, il y avait un jeune sur quatre qui allait jusqu'au bac. Aujourd'hui, c'est 4 sur 5. Et donc, on a continué, malgré des pressions réelles à la baisse sur les moyens des services publics, à avoir une forme de dynamique de progrès sur les services publics, grâce aux services publics dans la société.
Alors, il y a effectivement, Jean-Pierre Mongrand, cette amélioration générale, finalement, de notre confort de vie, de notre niveau de vie. Il n'empêche qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de dégradation des services publics. Si vous mettez en regard le fait qu'on est quand même le premier pays qui prélève, le premier pays qui dépense de l'argent public, et quand vous regardez le rang de la France dans tous les classements internationaux, qui est quand même extrêmement mauvais, prenez le classement PISA, le classement, même les classements sur la santé, les classements sur la justice, etc. Franchement, qu'est-ce qui s'est passé depuis, allez, 30-40 ans pour que notre service public se dégrade autant.
Bah écoutez, ce qui est frappant, moi j'ai regardé un peu les services publics au plus près du terrain, si ouais. dire, parce que ça fait 30 ans que, en tant que consultant et observateur un peu de terrain, j'essaie de les accompagner. D'abord, je voudrais compléter ce que disait Arnaud en disant que les services publics couvrent des champs aujourd'hui très importants, effectivement très larges. Et moi, j'ai été en contact avec des gens de métiers très différents, de l'aide sociale au collège, à l'enseignement, à la recherche. Je peux pas tous effectivement les citer. Mais on voit que c'est des éléments effectivement très importants. Donc, ce qui frappe de toutes ces années, c'est, de constater effectivement cette dégradation de manière assez forte dans un certain nombre de services publics. Je citais l'aide sociale à l'enfance. C'est particulièrement frappant quand on accompagne ouais. les départements sur ces sujets, effectivement. Ce qui, à mon avis, le regard que je porte aujourd'hui, c'est de me dire, finalement, toutes ces évolutions, tous ces changements, la première chose qui frappe, c'est un peu le manque d'anticipation, j'ai l'impression. C'est-à-dire le fait qu'on se dise, mais finalement, est-ce qu'on a les services publics, pas qu'on mérite, mais qui correspondent aux besoins réellement de la société d'aujourd'hui et de demain? Et je dirais que parfois les choses paraissent assez décalées. Alors il y a aussi parfois des manques de priorisation de l'apport d'un certain nombre d'acteurs par rapport au sujet qu'il faudrait particulièrement mettre en avant.
Et vous dites la crise elle est multiple en fait. Vous dites il y a une crise de proximité.
Exactement.
Avec les services publics qui se sont éloignés finalement des citoyens et des usagers. Vous dites il y a une crise de la complexité. Franchement, maintenant, c'est en termes de réglementation, etc. C'est devenu totalement kafkaïen. Crise de confiance aussi, crise de sens.
C'est ça qui est frappant. C'est-à-dire, moi qui ai toujours cherché d'aller au contact, je dirais, des agents, pas simplement accompagner les réorganisations de manière très technocratique, au contraire. C'est-à-dire, oui, c'est complexe. Bon. Prendre le temps d'aller comprendre, effectivement. Je pense que les choses ne se sont pas simplifiées avec le temps, ça c'est sûr, malgré les nombreuses réformes qui ont eu lieu et dans lesquelles je me suis effectivement replongé toutes ces années. En 30 ans, il y en a eu pas mal quand même, en tout cas d'efforts, de rapports, de missions, etc. Mais ce qui frappe, c'est de l'intérieur, de voir de l'intérieur cette crise de confiance qu'on peut avoir, un certain nombre d'agents, parfois de crise de sens même. Ça m'a beaucoup frappé dans beaucoup de métiers, des gens qui s'interrogeaient sur le sens même de leur mission et sur la reconnaissance même de ces missions.
Alors, Arnaud Bontemps, ça c'est vraiment un point que vous partagez tous les deux. Vous avez une expression que j'ai trouvée extrêmement pertinente. Arnaud, vous parlez, vous, de fabrique de la passivité. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une logique finalement où on répond à une commande et il n'y a plus effectivement de d'anticipation.
Cette réponse à la commande, c'est vraiment la clé de la réussite à tout concours de la fonction publique. On va pas vous demander d'être innovant, on va vous demander de répondre à la commande. Si la commande vous demande de réduire l'indemnisation du chômage, on vous demande pas si c'est pertinent ou pas, on vous demande d'y répondre. Et donc moi, en tant qu'étant passé par des concours de la fonction publique, ayant formé des jeunes au concours de la fonction publique, j'ai vu ce moule de la pensée, cette injonction à la passivité qui se construit malheureusement, et je pense que c'est un enjeu réel, et qui se développe derrière. Je me souviens encore, à la sortie de l'ENA, mon premier rapport d'une collègue qui m'accompagnait, qui était ma forme de mentor à l'époque, qui me disait « Mais Arnaud, je suis consciente qu'il y a des services publics qui sont à l'os, celui-là en fait certainement partie, mais on est la Cour des comptes, on ne peut pas dire ça. » Et donc, c'est pas une question de Cour des comptes ou de cette collègue, par ailleurs, brillante sur beaucoup d'aspects. C'est ça reflète de manière tout à fait, je crois, explicite les injonctions ou ce moule de la pensée dominante dans lesquelles on est baigné un certain nombre de hauts fonctionnaires et qui fait que l'injonction, il y a un cadre de la pensée autorisée. Dans ce cadre de la pensée autorisée, c'est la réduction des dépenses. La réponse aux besoins de la population est secondaire, alors que ça devrait être la priorité des services publics. Cette réponse aux besoins essentiels de la population, elle devient secondaire et on se pose plus la question du pourquoi, on se pose la question du comment et du comment faire avec moins.
Pardon Arnaud, mais comment expliquez-vous qu'en dépensant quand même toujours plus, l'écart se soit autant creusé entre les besoins de la population et l'offre de services publics?
Ben c'est frappant, mais je pense que le diagnostic est exactement dans ce que vous dites. Il y a plus de fonctionnaires aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans. Les besoins de la population, ils ont continué à évoluer. Je vous parlais tout à l'heure du baccalauréat et de la la part de la jeunesse qui a quadruplé au baccalauréat en les 40 dernières années. On parcourt aujourd'hui 5 fois plus de kilomètres qu'il y a 60 ans nos grands-parents. Il y a 30% de plus de maladies chroniques qu'il y a 10 ans. Les besoins de la population, ils continuent à augmenter de manière massive. Et donc, en pressurant par les moyens des services publics, ce que l'on fait, c'est qu'on ne supprime pas le besoin. Simplement, on empêche les services publics d'y répondre et se développe dans l'écart croissant entre les moyens des services publics et les besoins de la population, un marché. Un marché qui est pris par les cliniques privées dans la santé, par l'école privée sous contrat dans le secteur de l'éducation, et qui vient fracturer de la société, puisque ce développement-là se fait sur de l'argent public. Dans l'éducation, il y a 20 ans, les écoles, les collèges privés sous contrat scolarisaient 29% d'enfants de parents diplômés. Aujourd'hui, c'est 40%. Une augmentation massive. Dans le même temps, la composition sociale de l'école publique n'a pas changé. Et tout ça, ça se fait sur de l'argent public, puisque c'est bien par l'argent public qu'est financée l'école privée sous contrat.
Jean-Pierre Mongrand, est-ce que ça signifie pas tout simplement que l'État intervient aujourd'hui dans trop de champs et qu'il y a tout un tas d'activités qui pourraient être laissées finalement au marché et au secteur privé?
Ouais. J'entends ce que dit Arnaud Bontemps. La question que moi je me pose depuis le début, pas de cet entretien, mais de mes interventions, c'est voilà, comment je peux contribuer, comment on peut améliorer la qualité de nos services publics, une fois qu'on a fait un constat, comme on l'a fait, de grandes souffrances, de tensions, de difficultés, dans un contexte qui est quand même de plus en plus contraint. Et j'ai vu au fur et à mesure des années ce contexte de plus en plus contraint effectivement arriver. Et moi je défends l'idée que c'est possible. On verra effectivement peut-être tout à l'heure effectivement comment, en priorisant sans doute davantage, en mettant sans doute le paquet sur un certain nombre de sujets plus que d'autres effectivement. Et moi je suis effectivement frappé quand même par le fait que d'abord je suis d'accord que l'État ne peut sans doute effectivement pas tout, mais j'ai l'impression qu'on ne s'est vraiment jamais posé, même s'il y a eu beaucoup de rapports intéressants pour dire mais où commence et où s'arrête le champ effectivement du secteur public et des administrations, et je pense qu'il a évolué avec le temps, comme on l'a dit très bien effectivement, pour répondre à beaucoup de besoins. Où s'arrête ce champ? Et je pense que il est peut-être à la veille d'élections importantes comme on va le connaître, se dire c'est peut-être le moment aussi de temps en temps de se poser et de dire est-ce que le champ d'aujourd'hui correspond aux besoins qu'on veut effectivement construire, et comment on peut peut-être refonder les rapports public-privé. Moi je ne suis pas dans une logique d'hostilité forcément entre les deux, je crois beaucoup à la place des services publics. Mais je crois aussi aux initiatives qui sont prises sur le plan local. Vous parlez de l'État, mais je pense qu'aussi du côté des collectivités, il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont faites.
Justement, on va y venir.
Et parfois méconnues.
La modernisation des services publics, chers amis, ça commence depuis qu'il y a des services publics, oui. En fait. Juste au XXe siècle. René Favrel, 1919. Henri Fayol, 1926. Léon Blum, 1936. Je passe la quatrième. La rationalisation des choix budgétaires en 1968. Jacques Chirac en 1995. Lionel Jospin en 97. La RGPP de Nicolas Sarkozy en 2007. La MAP de François Hollande en 2012. Le CAP 22 ensuite d'Emmanuel Macron. Et tout ça n'a débouché sur rien. 35 tentatives de modification de la loi organique relative aux lois de finances de 1959, tout avorté. Est-ce qu'on s'y prend mal? Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas?
Je ne sais pas si on sait. Alors il y a eu quand même des changements au fur et à mesure de ces années.
En gros, c'est la question que posait Mitterrand sur le chômage. On a tout essayé. Est-ce que pour moderniser l'État, on a tout essayé?
Moderniser l'État et le service public et les administrations, effectivement. Et je pense qu'il y a eu quand même des évolutions. Alors, je ne suis pas là pour défendre particulièrement les lois de décentralisation, mais il y a eu effectivement un certain nombre d'évolutions. C'est vrai que quand on regarde qu'on est moins engagé à l'intérieur, mais qu'on reste effectivement à l'extérieur, on est frappé par le fait qu'on a l'impression que la complexité s'est accrue, en fait, au fur et à mesure des années. Oui. Ça, il y a cet élément-là. Et puis, il y a le fait qui est quand même terrible, c'est qu'on a l'impression qu'on réinvente la roue presque à chaque quinquennat, ou à chaque démarrage, effectivement, alors qu'il y a eu, et je me suis replongé dans ces rapports que vous citez et dans d'autres encore, plus récents ou plus anciens, effectivement, et c'est frappant, on se dit, mais ils ont tout dit, en fait. On a déjà tout dit, on a exprimé déjà beaucoup de choses, pourquoi est-ce qu'on ne l'a effectivement pas fait? Moi, je suis frappé par ces changements, notamment les plus récents, d'ailleurs, que vous citez, Sarkozy, Hollande, Macron, etc. J'ai l'impression qu'on a réinventé la roue un petit peu en niant Et c'est vrai que c'est une des difficultés qu'il y a, je trouve, dans ces environnements, y compris parfois dans les collectivités que je connais bien, c'est la difficulté à tirer les enseignements de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas forcément réussi pour l'avenir.
Alors, Arnaud Bontemps, j'avoue qu'il y a une phrase qui m'a agacé dans votre livre, parce qu'il y a un thème que vous abordez pas tellement tous les deux, en fait, je trouve, c'est quand même... Et puis c'est pas un tabou parce que les rapports en sont pleins. Cette problématique des gaspillages d'argent public, c'est-à-dire d'inefficacité. Après on peut citer tous les rapports. Après il y a quand même la Cour des comptes qui publie énormément, reprise de façon souvent peu plus youpla boum par Agnès Verdier-Molidier. Enfin je veux dire c'est quand même des dizaines de milliards par an qui sont jetés par les fenêtres. Arnaud, la phrase qui m'agace le plus dans votre livre, donc c'est « De l'argent, il y en a ». Il y en a où de l'argent ?
Alors, d'abord, je vous renvoie un petit peu plus à mon livre, puisque je liste des centaines de milliards d'économies possibles sur les aides aux entreprises, les OQTF, la construction de nouvelles prisons, alors qu'on n'a jamais eu autant de surpopulation carcérale qu'aujourd'hui. Il y a énormément de pistes d'économies possibles. Mais, en effet, on a trop souvent l'impression ou tendance à entendre que les services publics, ce serait un luxe qu'on pourrait ou non se permettre si on a de l'argent. C'est une idée fausse. Les services publics, c'est le même argent que l'on utiliserait dans le marché ou dans le service public. Ce qui change, c'est la manière d'avoir accès aux besoins. Est-ce que c'est par une logique de prix ou est-ce que c'est parce qu'on y a droit ? Très souvent, le service public est plus efficace. Aujourd'hui en France... Pour l'assurance maladie, on cotise en moyenne 11 euros par jour et par personne pour pouvoir se soigner. Mmh. Aux États-Unis, dans un système très largement privatisé, c'est 22 euros par jour et par personne. C'est le double pour un système très notoirement dégradé.
Même sans aller aux États-Unis, les frais de gestion des mutuelles sont plus élevés que...
Même les frais de gestion des mutuelles et des assurances complémentaires privées sont plus élevés que ceux de la sécurité sociale. Sans aller jusqu'aux États-Unis, en Allemagne, on trouverait des écarts importants par rapport à la France et toujours en faveur de la France. Donc, le service public, très souvent, c'est plus efficace. Mais avant tout, il faut se le dire, c'est un choix politique. C'est le choix politique de, pour pouvoir se soigner, on ne joue pas avec le soin, on ne joue pas avec l'éducation. On décide d'accroître les possibilités de la population et de ne pas faire dépendre un besoin essentiel de contingence matérielle.
Mais ça, Arnaud, ça poserait pas de problème si... dans les pays scandinaves, ils ont fait le choix d'avoir certains services rendus par l'État. Quand ce service est aussi bien rendu que le secteur privé, avec une forme de compétitivité finalement... Ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a effectivement aucune étude qui montre qu'il y a un niveau de dépenses publiques optimal dans un pays. C'est un choix de société. Mais nous, notre problème, c'est quand même que tout ça est quand même pas... on n'en a pas pour notre argent, vous voyez.
Bien, je vous rejoins sur un point. Le statu quo est intenable. Et je ne suis pas du tout défenseur de ce statu quo. Il y a une perte de sens, on le disait, des agents dans le service public. Ça conduit à une maltraitance institutionnelle de beaucoup d'agents, d'usagers en fin de course. Mais est-ce que en remettant tout ça dans le champ du marché, on sera plus efficace ? Loin de là. On l'a vu sur l'exemple de la santé, mais aussi dans l'éducation. Malgré des frais d'inscription, si les écoles privées font moins progresser en moyenne les élèves que le font les écoles publiques.
Jean-Pierre Mongrand, un mot et on voit justement les.
Oui, moi je peux vous citer un exemple. Alors moi je me sens pas militant. Encore une fois, j'ai des vraies convictions sur la place de services publics dans la société et j'essaie de voir comment on peut faire avancer les choses. Mais je reconnais que dans un certain nombre de situations, il y a un vrai consensus pour que ça ne bouge pas. Moi, je peux vous citer un exemple récent, je ne citerai pas l'exemple, enfin, qui est peut-être un peu caricatural, je ne veux pas faire de la caricature de Ali Frappe, mais bon, il y a même un exemple assez frappant de relation entre une ville, des villes et une métropole, un transfert de compétences des villes vers la métropole qui s'est passé sans transfert de personnel, et finalement trouver du côté de la métropole des gens très contents parce qu'ils ont pu embaucher des gens effectivement nouveaux, et du côté de la ville, qui transfère ses personnels à contrôler ce que fait effectivement la métropole. On arrive à une augmentation des effectifs dans l'ensemble et finalement tout le monde trouvait ça bien. Et en tant que citoyen, je suis heurté un peu par cette situation et je le dis. Et d'ailleurs, j'ai perdu la mission d'après parce que de fait, le client ne m'a pas trouvé très, très positif sur ce point.
Alors, justement, les solutions, parce que finalement, tous les deux, vous êtes quand même relativement optimistes, vous dites on peut s'en sortir. D'ailleurs, il y a quand même beaucoup de pays qui s'en sont sortis.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Pourquoi ils ont réussi là où on a échoué? Toujours les mêmes, hein, Canada, Suède, Espagne, Portugal, un peu l'Argentine même. Maintenant, pourquoi nous on n'y arrive pas et eux ils y arrivent?
En tout cas, moi je suis toujours très prudent sur les exemples. C'est toujours intéressant de s'inspirer effectivement d'exemples étrangers. Il y a toujours des bonnes choses, mais je suis toujours très prudent, que ce soit les bons ou les moins bons exemples. Ça dépend de quel point de vue effectivement on se place. Moi, ce qui me frappe tout de même, et je vois quand même les initiatives qui sont prises, y compris dans notre pays, par un certain nombre d'établissements publics ou de collectivités, qui sont plutôt intéressantes et positives, ouais, qui sont arrivées à améliorer les choses.
Ouais, mais alors là, pardon, justement, vous n'êtes pas d'accord là-dessus.
C'est-à-dire, ah bon,
vous croyez, non mais vous croyez au changement par le terrain,
oui,
par le bas, à une forme de décentralisation. Alors que Arnaud, lui, il dit non, il faut en finir avec la décentralisation.
Il y a deux choses. Moi, je pense que c'est à deux niveaux, mais je ne sais pas si on est d'accord effectivement là-dessus ou pas d'accord. Moi, je pense qu'au niveau de l'État, au niveau des gouvernants, il y a des choix à faire, et je pense que les élections présidentielles qui arrivent peuvent être l'occasion de dire où s'arrête le champ effectivement de l'intervention des services publics, quelles sont les priorités compte tenu des besoins à venir et des contraintes financières qu'on a. Donc il y a un cadre à donner, à mon avis, au niveau de l'État, mais je pense qu'il y a effectivement au niveau du terrain à s'inspirer aussi des expérimentations, et pour moi les
vous
conditions
en citez
de réussite
plein dans votre livre, hein, quand même, hein.
Comment
vous en citez plein quand même.
Oui, j'ai essayé d'anonymiser un petit peu aussi,
oui,
pour éviter, etc. Mais
dans
il y a beaucoup
livre,
d'exemples,
expériences,
oui, parce que
et qui aboutissent à des vraies améliorations.
Oui, parce que mais pour moi c'est quand plusieurs conditions sont réunies, quand vous avez des dirigeants de terrain qui sont effectivement qui ont une vision et qui savent où ils veulent aller et qui définissent des priorités. Quand vous avez une démarche qui associe, on n'a pas encore parlé, mais pour moi, qui associe les agents et si possible les citoyens également à la définition, à la remise à plat, etc. Et moi, je suis vraiment un militant. Si je dois être un militant, c'est de la co-construction et de l'ouverture vers les agents et les citoyens. Et puis, évidemment, une évaluation des travaux qui sont faits. Mais je dois vous dire, pour terminer, que là encore, j'ai perdu beaucoup d'appels d'offres parce qu'on m'a dit que j'étais trop dans la co-construction et qu'on aimait plutôt les audits vite fait, bien fait. Et évidemment, moi, je ne suis pas dans cette
audience. Pourquoi vous dites qu'il faut en finir avec la décentralisation?
Dites-le-vous.
En finir avec la décentralisation, ce n'est pas en finir avec les collectivités territoriales. Ah. C'est en finir avec cette idée que, en mimant la démocratie représentative qu'on connaît au niveau national à une échelle territoriale, ça ferait forcément plus de proximité et plus de démocratie. Alors qu'au final, les premiers à ne pas s'y retrouver dans le millefeuille et l'empilement des strates territoriales, c'est les élus. Eux-mêmes n'y comprennent rien. Je pense que on a toujours été beaucoup plus imaginatif que ça quand on a pensé la démocratie dans les services publics. Après 1789, on met en place des jurys d'assises, on tire au sort des citoyennes et des citoyens seulement d'ailleurs à l'époque, et on leur donne un sacré pouvoir, celui de juger des crimes les plus graves. C'est une forme de démocratie très innovante. Après 45, quand on généralise la sécurité sociale, on crée une démocratie par des élections auxquelles se présentent les syndicats et les mutuelles. Une démocratie sociale, c'est aussi extrêmement innovant. Les collectivités territoriales, c'est une forme parmi d'autres. On mime la démocratie à un niveau territorial, ou la démocratie représentative, on la reproduit plutôt. Et c'est une forme, mais parmi d'autres, l'enjeu d'en finir avec la décentralisation, c'est de donner vraiment du pouvoir et de penser le pouvoir. Et on peut le faire de plein de manières. Juste un exemple, si au commissariat de Saint-Denis, en bas de chez moi, on tire au sort des habitants de tous les quartiers du Demos et on leur donne le pouvoir d'évaluer le commissaire, je pense qu'on n'aura pas exactement la même politique de sécurité publique.
Alors, autant j'aime pas votre phrase « de l'argent, il y en a », autant j'ai été très excité par cette phrase. Vous dites qu'il faut dévoiler le potentiel révolutionnaire du service public.
Ouais. Le service public, c'est pas l'État. Il y a du service public géré par des coopératives, des associations, des fois des entreprises. Le service public, c'est cette sortie des besoins essentiels du marché. Et ça, je crois que c'est absolument clé, et surtout au XXIe siècle. On est dans un moment où, depuis 50 ans, décennie après décennie, la croissance s'étiole. Pour la relancer, on comprime les services publics et on appuie sur l'accélérateur pour brûler plus de pétrole et produire plus de déchets. Cette logique-là, cette logique d'accumulation et ce mur dans lequel nous emmène l'absence de croissance et le fait de la relancer à tout prix, c'est le mur dans lequel nous emmène quoi ? le fait que nos besoins essentiels soient aujourd'hui gérés par le marché. Les sortir du marché, de cette logique d'accumulation, et en faire des besoins essentiels, produits garantis par un service public, je crois que c'est une réponse massive au défi du XXIe siècle. C'est de reposer la question démocratique de qu'est-ce qui est essentiel dans nos vies, qu'est-ce qu'on veut gérer en commun et comment est-ce qu'on le gère démocratiquement. Alors, en ça, le service public, je crois, est révolutionnaire.
Chers amis, il y a quand même un game changer dans tout ça, c'est l'intelligence artificielle, la technologie. Comment on utilise ce levier qui est quand même en train de créer des changements profonds dans le fonctionnement des entreprises, qui va avoir des effets massifs sur les métiers, sur la productivité. Comment on peut utiliser ce levier pour justement aller vers plus de services, enfin en tout cas des services publics mieux en adéquation avec les besoins des citoyens?
On pourrait penser d'abord de ce que je constate dans les accompagnements que je peux faire, effectivement, que les sujets sont un peu dans les balbutiements encore, hein, dans l'environnement effectivement public. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises, il y a beaucoup d'effets de communication, de mode, etc. On n'est pas encore rentré complètement, de mon sens, de ma fenêtre, hein, en tout cas sur des sujets de fond. Moi, j'y vois une opportunité intéressante, ne serait-ce que pour faciliter la prise de décision, pour faciliter les allocations de moyens qu'on peut avoir quand on a effectivement des projets, et puis surtout pour faire gagner peut-être du temps, ou en tout cas de diminuer un certain nombre de tâches, un certain nombre de métiers. Donc, il y a des collectivités qui ont commencé déjà à réfléchir à leur métier pour aller plus au contact des agents. Dans les faits, on n'a pas encore pu observer effectivement ces résultats, et je pense que on n'est qu'au début de cette révolution, si je puis dire.
Arnaud Bontemps, très vite, on va conclure là-dessus parce que c'est quand même important. Vous faites un détour un petit peu par le monde et votre observation à partir notamment de l'expérience américaine, etc. Vous dites le totalitarisme avant c'était l'État au service de la dictature assise sur les services de l'État. Aujourd'hui, les totalitarismes se bâtissent contre les services publics et contre l'État.
En effet, alors contre l'État, je ne sais pas, ils se servent de l'État pour attaquer le service public. Les médias publics, la recherche publique, les services de protection de l'environnement, l'éducation. Aujourd'hui, tout se passe avec les totalitarismes, les nouvelles extrêmes droites qui arrivent au pouvoir, comme si le potentiel de démocratie que revêtaient les services publics leur devenait de plus en plus insupportable. Et donc, elles s'y attaquent, comme s'ils avaient mieux compris que nous la force qui était en germe dans le service public.
C'était important qu'on conclue là-dessus. Sujet inépuisable avec beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc, dans vos deux livres, messieurs, Arnaud Bontemps, Service public ou Barbarie, aux éditions La Découverte, Jean-Pierre Mongrand, pour un Big Bang des services publics, c'est aux éditions Management et Société. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho avec nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr et grand animateur des pages livres dans Alternative Économique, le magazine. À ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, président de la Société d'économie politique, dont il est aussi évidemment le critique. Mesdames et messieurs, vous avez là deux des plus grands lecteurs de livres d'économie de ce pays qui ont choisi de rendre hommage finalement à un économiste important qui a marqué la deuxième partie du XXe siècle, John Kenneth Galbraith. Ça fait 20 ans qu'il est mort, John Kenneth Galbraith, et c'est l'occasion aussi de la republication d'un de ses grands livres. Alors vous allez commencer par ce livre, messieurs, L'Argent, qui est republié chez Folio Histoire, puis vous nous en direz un peu plus, finalement, sur John Kenneth Galbraith. Qui veut commencer? Jean-Marc Daniel, qui était d'abord cet économiste?
Alors, juste une précision, la version que nous avons choisie est aux belles lettres. Effectivement, il y en a une version chez Folio, mais la version qui vient d'être publiée est aux belles lettres. Mais on le trouve aussi chez Folio, il n'y a pas de problème. Donc, qui est l'auteur? Donc, il est né au début du XXe siècle, il est canadien, il va faire des études aux États-Unis, en Californie, et il va, alors qu'il a 26-27 ans, il va s'impliquer personnellement dans le New Deal. Il va rejoindre les équipes de Roosevelt, il est passionné, fasciné par à la fois l'esprit qui règne dans l'entourage de Roosevelt et puis par les réalisations concrètes. Et simultanément à cette action politique, il rejoint sur le plan intellectuel le keynésianisme et les écrits de Keynes. Donc après, il va avoir une vie qui va se partager entre le monde universitaire. Il publie pas des multitudes d'articles dans les revues. Il publie davantage des livres. Il s'adresse plutôt au grand public. Il est assez actif sur le plan politique. Il rejoint d'ailleurs là aussi les équipes de John Kennedy. Et quand Kennedy est élu, il le nomme non pas dans son équipe de conseil économique, mais il le nomme ambassadeur des États-Unis en Inde, où il va avoir une action assez remarquable. Notamment, l'Inde à l'époque est très proche de l'Union soviétique. Il va un peu amorcer un rapprochement entre, on est en pleine guerre froide, entre l'Inde et les États-Unis. Et puis ensuite, eh bien, il va se retirer progressivement en publiant un certain nombre de livres, et de ces livres qui sont assez critiques, notamment sur la présidence Reagan. Sur le plan intellectuel, c'est vraiment à la fois keynésien très fidèle à l'organisation, mais un keynésien qui sait être critique, c'est-à-dire il sait voir et reconnaître les limites du modèle.
Alors ce livre, L'argent, Christian Chavagneux, de quoi s'agit-il ?
J'ajoute juste un petit mot sur ce qu'a dit Jean-Marc. Il est à l'université Harvard quand même. Il n'est pas dans une petite fac aux États-Unis. Kennedy lui a proposé d'être son chef des conseillers économiques, mais il a vu en étant sur le devant de la scène qu'on se prenait quand même pas mal de baffes dans la figure. Il a dit je préfère un poste moins exposé aux États-Unis. C'est pour ça qu'il a refusé.
Encore un économiste courageux.
Mais il a proposé l'un de ses amis ennemis, qui était Paul Samuelson, pour être proche de Kennedy. Il y a les relations entre Samuelson et Galbraith, c'est absolument fabuleux. Ils se critiquent tous les deux, et en même temps, ils s'apprécient beaucoup tous les deux. Galbraith dit qu'il faut lire Samuelson, Samuelson dit qu'il faut lire Galbraith. J'ai quand même noté une citation, parce que Samuelson dit « Ouais, Galbraith, okay, c'est l'économiste des non-économistes. » C'est-à-dire, c'est les gens qui comprennent rien à l'économie, ils aiment bien lire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Galbraith a été chroniqueur à fortune, et il a une plume, il sait écrire, et donc évidemment il s'adresse au grand public, mais la meilleure citation que je trouve de Samuelson sur Galbraith, c'est « On se souviendra et on lira Galbraith quand la plupart d'entre nous, les lauréats du prix de la Banque de Suède, seront enfouis dans les notes de bas de page poussiéreuses de bibliothèques poussiéreuses. » Donc vraiment, voilà, c'était, on lira, et de fait, on lit plus beaucoup Paul Samuelson aujourd'hui, on lit encore Galbraith. Ce livre-là, à mon sens, il est intéressant, mais c'est pas le meilleur. On commence par une histoire de la monnaie, une histoire des banques, c'est assez traditionnel, il n'y a pas grand-chose d'original. Mais après, ça bascule dans une histoire de la création de la Réserve fédérale aux États-Unis, donc la Banque centrale américaine, puis sur les batailles de politique économique entre Keynes et les monétaristes, on va dire, et puis les débats des années 70, tout début des années 80. Et là, ça prend une dimension un petit peu plus intéressante. Et on voit que, oui, bien sûr, il y a une filiation keynésienne chez Galbraith qui est évidente. Et en même temps, il vient de l'institutionnalisme américain, donc Thorstein Veblen, qui n'est pas très connu en France, mais c'est quand même un de ses grands inspirateurs. Et Marx aussi, il a beaucoup lu Marx. Donc c'est vraiment un économiste non conformiste, comme on dira aujourd'hui, mais il va puiser chez plusieurs grands auteurs. Et puis surtout, sa grande idée, c'est que l'acteur qui domine le monde économique aujourd'hui, c'est l'entreprise. Donc, il faut comprendre le monde de l'entreprise, comment elle est organisée, la fameuse technostructure. Il y a des croyances collectives chez les économistes. Le pouvoir, c'est quelque chose d'intéressant, d'important pour comprendre l'économie, alors que les économistes s'y intéressent pas. Voilà. C'est le cadrage général un peu du bouquin de Galbraith.
Jean-Marc Daniel, ce livre, L'argent, vous le resituez comment, vous, dans l'œuvre de Galbraith, sur laquelle on va revenir après ?
Oui, je pense que c'est un livre important, et peut-être plus important que ce que vient de dire Christian, parce qu'il y a véritablement à la fois une vision historique qui se centre assez vite sur les États-Unis. Au début, il part l'Antiquité, Crésus, et puis il nous explique que la banque, c'est l'Italie, la banque centrale, c'est l'Angleterre, mais la monnaie, ce sont les États-Unis, avec quelquefois des anecdotes et puis des récits qui sont des récits très bien menés. Il a une plume très alerte, effectivement. On rejoint ce que disait Samuelson, c'est très agréable de lire du Galbraith, et c'est assez bien traduit en plus. Ouais. Les gens se sont efforcés de reprendre le style de Galbraith. Il y a tout un passage sur les rapports, la façon dont ont été financées les guerres américaines, la guerre contre le Royaume-Uni de 1812 avec Albert Gallatin, qui était le secrétaire au trésor de l'époque, et puis Salmon Chase, qui est le secrétaire au trésor de Lincoln, dont il fait un portrait assassin, parce qu'en plus il est extrêmement impliqué personnellement dans la façon dont il décrit les événements. Il est capable de... Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est qu'effectivement, ce que dit l'éditeur, c'est qu'il a pris la toute dernière version, qui date du milieu des années 90, et donc la partie qui de conclusion est une partie effectivement qui s'appuie sur l'actualité, et notamment sur ce qui s'est passé sous Reagan. Et donc il dit il y a quatre erreurs que les économistes doivent éviter, et j'ai trouvé ça assez bien. Alors ces quatre erreurs, c'est de faire confiance aux conjoncturistes et aux prévisionnistes, parce que ils se trompent tout le temps, et en fait ils donnent plutôt une vision du monde telle qu'ils le rêvent que plutôt que telle qu'il est. La deuxième erreur, c'est effectivement de croire que le keynésianisme, d'avoir une vision un peu hydraulique entre guillemets du keynésianisme, où il suffit d'augmenter les dépenses et il suffit de baisser les impôts. Or, il dit c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit, et notamment quand on a augmenté les dépenses, c'est plus compliqué de revenir en arrière. La troisième erreur, c'est de ne pas voir qu'un des éléments clés qui détermine l'économie, c'est encore l'existence de monopoles. Alors, il parle des monopoles syndicaux, et il dit les entreprises, Christian l'a dit, c'est un théoricien aussi de l'entreprise, de la technostructure, et donc il dit, un des enjeux, c'est effectivement de ne pas voir dans l'entreprise le bien absolu, et de voir qu'elle est à la recherche du monopole, que les syndicats sont à la recherche du monopole et que c'est ça qui nuit à l'économie. Et puis alors, le quatrième thème, ce qui je trouve aussi là aussi assez pertinent, c'est de dire on a transformé la politique monétaire en une espèce de panacée. Donc il écrit ça à la période où Greenspan, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Bon, il y a une espèce de transformation de Greenspan en gourou. Et il dit, écoutez, il faut réfléchir quand même à ce que représente la monnaie. Tout le but du livre que je viens d'écrire, c'est vous expliquer ce à quoi ça sert et les limites de la politique monétaire. Et cette conclusion, je la trouve très datée des années 90 et pourtant totalement pertinente. Je trouve que ces quatre éléments n'ont pas vieilli par rapport à ce qu'on aurait pu dire dans les années 60 ou 70.
Du coup, le bouquin est rempli d'aphorismes. Pour aller dans le sens de Jean-Marc, j'en ai quand même noté quelques-uns.
Allez-y, régalez-nous.
Comme d'habitude, les prévisions des experts financiers furent de peu d'utilité pour envisager l'avenir. Bon, ça, c'est vraiment un classique. La tendance des économistes à trouver une vertu à tout ce qui agrée aux gens aisés respectables est évident. Les économistes économisent les idées. La plupart se servent toute leur vie de celles qu'ils ont acquises dans leur jeunesse. Je vois ça quand même pas mal. Et puis la dernière sur Keynes, que vraiment j'adore. Les collègues de Keynes le tenaient depuis longtemps en suspicion pour la clarté de son style et de sa pensée, qui vont souvent de pair. Alors, la théorie générale racheta sa réputation universitaire. C'est un livre profondément obscur, mal écrit et trop vite publié. Voilà, comme ça, c'est réglé. Et le bouquin est rempli d'aphorismes comme ça. On prend beaucoup de plaisir à lire Galbraith. Il a eu une formation de journaliste économique et il s'en sert dans ses bouquins.
Bon, Christian, qu'est-ce qu'il faut lire d'autre de Galbraith, finalement ?
Ah, moi, le premier livre que j'ai lu de Galbraith, c'est La crise de 29.
Ah oui.
Donc, son récit de la crise de 29, c'est très profondément économique, financier. Il y a une vraie analyse de la montée de la spéculation. Et en même temps, c'est comme dans l'argent, c'est des portraits, des gens, des anecdotes, des histoires. C'est vraiment un pédagogue de l'économie. L'autre livre que j'aime bien, moi, c'est L'économie en perspective. Là, c'est toute une histoire. C'est comme l'argent. On repart des débuts de la pensée économique jusqu'à pratiquement aujourd'hui, enfin les années 90, et c'est une histoire critique de l'histoire de la pensée économique. Donc là les aphorismes de critique des économistes, là il y en a plein, mais c'est une histoire, c'est un livre assez épais, vraiment intelligent. Pour moi, c'est un de ses meilleurs livres.
Jean-Marc Daniel.
Alors moi, je compléterai par deux livres. D'abord, son livre qui a été considéré très longtemps comme le livre de référence, Le Nouvel État Industriel.
Bien sûr.
Qui est justement cette idée que l'entreprise cherche à échapper à la concurrence et que finalement, il y a une sorte de convergence sur le plan des idées et des techniques de management entre l'Union soviétique, il écrit ça à la fin des années 50, au début des années 60, entre l'Union soviétique où, après la période du délire stalinien, on est venu à une forme de rationalité planificatrice, et les grands monopoles qui sont en train de se mettre en place aux États-Unis. Et donc, cette idée du passage du pouvoir vers la technostructure, vers les managers, vers les gens qui ne sont pas forcément ni des membres du Parti communiste, ni des innovateurs et des entrepreneurs, est assez bien vu et assez bien mené. Et puis alors, il y a une série d'essais qui ont été publiés au Seuil sous le titre « Économie hétérodoxe », où il y a plusieurs textes que je trouve assez agréables à lire. C'est un gros volume, mais c'est plusieurs, c'est six essais. Et donc, chacun a sa logique et sa cohérence. Et donc, alors là, c'est toute la verve de Galbraith. Là, il se donne à cœur joie. Il y a une histoire de la pensée économique. Et puis, effectivement, il y a une description des enjeux de l'économie. Non, c'est une façon de redécouvrir Galbraith sur tout un tas de domaines sur lesquels il a publié.
Est-ce qu'il a un héritier aujourd'hui
Son fils.
Évidemment, son fils. James Kenneth Galbraith.
Son fils. Qu'on a reçu dans la librairie de l'Écho.
Francophile, bourré d'humour et bon économiste. Un des premiers à travailler sur les questions d'inégalité, bien avant Atkinson et Piketty, et qui aujourd'hui passe très souvent en France. D'ailleurs, il sera à Paris au mois de mai.
On l'avait reçu il y a deux ans.
Je crois. Et puis c'est le fils se veut autant canadien, américain, européen. Enfin, il rappelle que son père était canadien quand même, qu'il n'était pas américain au sens Trump, entre guillemets.
Eh ben, vous savez quoi, messieurs, vous nous avez donné envie de lire ou de relire John Kenneth Galbraith. Allez, c'est l'heure de retrouver notre étude de la semaine.
BFM Business, la librairie de l'écho, l'étude de la semaine.
C'est ce passionnant travail conduit par le BCG Anderson Institute. Alors, les études sur les effets de l'intelligence artificielle sur le travail, on en a plein, mais celle-ci s'appuie sur une modélisation économique inédite pour mesurer précisément l'impact de l'IA sur les emplois. Nicolas de Belfond, bonjour.
Bonjour.
Nicolas, vous êtes le responsable de l'IA pour BCG dans le monde. Ce qui est rassurant, Nicolas, dans cette étude, c'est que, selon vous, l'IA n'est pas une machine à détruire massivement des emplois dans tous les secteurs.
Non, effectivement. Et en fait, ce que regarde l'étude, c'est à quel point l'IA vient d'abord, effectivement, automatiser ou pas certaines tâches versus augmenter le quotidien, mais sans automatiser. Et puis, à quel point, en fait, en automatisant ou en augmentant, elle abaisse le coût du travail, ce qui permet en fait de répondre à plus de demandes. Et donc, ça ne vient pas détruire de l'emploi, mais au contraire, ça crée quelque part plus d'activité. Et au final, ça montre que la très grande majorité des emplois sont soit peu impactés, pour 57% d'entre eux, soit quand ils sont impactés, sont transformés, mais pas détruits. Et en réalité, il n'y a que, dans l'étude et qui se concentre sur le marché américain, 12% des emplois qui sont vraiment à risque d'être profondément réduits en nombre.
Alors, vous l'avez dit, il y a 57% des métiers qui finalement seraient un peu impactés, mais un peu en continu, avec une IA qui améliore les conditions de travail, mais qui ne transforme pas vraiment le métier. Et puis, vous dites, il y a quand même, dans 19% des métiers, l'IA transforme vraiment les rôles avec soit des métiers amplifiés, soit des métiers reconfigurés. C'est-à-dire ?
En fait, on regarde les métiers où, en introduisant de l'IA, on va pouvoir répondre à plus de demandes. Je vais vous donner un exemple qui est le développement informatique. Ouais. En fait, un développeur informatique, grâce à l'IA, peut produire beaucoup plus. Donc, c'est un métier qui est profondément augmenté par l'IA, pas remplacé, mais augmenté. Et en même temps, aujourd'hui, on a un besoin de développement qui est beaucoup plus grand. Donc, en fait, cette productivité, elle permet de répondre à plus de demandes. Ce sont les métiers amplifiés. Et puis ensuite, il y a les métiers redistribués, où là, en fait, la demande est contrainte. Mais ce que ça fait, c'est que on rééquilibre les tâches. En fait, on élimine des tâches qui sont peut-être plus rébarbatives, plus répétitives, pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Alors, nous, par exemple, on a travaillé avec les équipes marketing d'un très grand groupe de grande consommation, où on a vu ça totalement, puisque 40% du quotidien d'un marketeur, c'était de analyser des données, produire des rapports. Tout ça peut être effectivement automatisé en partie par l'IA, mais le rôle des marketeurs se reconcentrait sur la compréhension des consommateurs, sur l'innovation, et donc en fait sont des rôles qui ne sont pas du tout éliminés, mais qui sont rééquilibrés entre les tâches à forte valeur ajoutée et les tâches à plus faible valeur ajoutée qui sont plutôt déléguées à l'IA.
Alors, il y a une catégorie de métiers, pour terminer, Nicolas, qui effectivement est prise dans une forme de contradiction. C'est par exemple les agents d'assurance, les supports IT, etc. Où d'un côté, il y a une demande qui augmente, mais aussi une forme de banalisation des tâches. Et en gros, vous dites, il y aura un besoin plus grand de seniors et un besoin plus faible de juniors. Comment vous pouvez avoir des seniors s'ils n'ont pas été juniors avant ?
Alors, déjà, effectivement, il y a une catégorie de métiers où ce sont les tâches des juniors qui sont automatisées, et les seniors, entre guillemets, sont un peu protégés. C'est le cas aussi de certains métiers du conseil, c'est le métier de banquier d'affaires, où en fait, tout ce qui est analyse basique de rapports, production d'analyse sur les sociétés, etc., peut être en grande partie automatisé, et donc ce sont plutôt les niveaux d'entrée qui disparaissent, mais on a encore besoin de seniors, de jugements, de perspectives, et la demande de conseil est plutôt en augmentation qu'en diminution. Après, il y a un vrai problème RH, effectivement, pour ce type de métier, vous l'avez totalement souligné, c'est comment est-ce qu'on forme les seniors de demain. L'hypothèse, c'est qu'il y aura moins de juniors, mais il n'y en aura pas plus, et donc, en partie, ce seront ceux-là qui deviendront les seniors de demain, et puis, il y aura aussi potentiellement plus de passerelles entre différents métiers pour développer les seniors de demain.
Merci beaucoup Nicolas de Belfond, responsable de l'IA pour BCG, de nous avoir donné les détails de cette étude que vous pouvez avoir en accès évidemment beaucoup plus complet sur effectivement l'impact de l'IA sur l'emploi. Allez, toujours plus de chiffres dans la librairie de l'écho.
BFM Business, la librairie de l'écho, des idées et des chiffres.
Coup de projecteur sur cette étude de HelloWatt sur l'évolution de nos factures de gaz depuis 2020. Entre 2020 et 2026, la facture de gaz d'un foyer de 4 personnes a doublé. Elle est passée de 630 à 1260 euros par an pour une consommation moyenne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'autour de cette moyenne, eh bien, les différences sont très importantes selon le type de chauffage. Si vous avez une pompe à chaleur, on est passé de 559 euros à 684 euros par an. Si vous avez une chaudière à gaz, on est passé de 630 à 1266 euros, augmentation de plus de 100% contre 22% avec la pompe à chaleur. Augmentation de 22% aussi pour les radiateurs électriques, mais c'est la facture de loin la plus élevée. On est passé de 1600 à 1947 euros. Et puis la chaudière à fioul, on est aujourd'hui à 1370 euros, donc c'est moins cher que l'électricité, mais on était à 951 plus 44% d'augmentation. Alors après, qu'est-ce qui nous attend ? Eh ben, la facture des particuliers pourrait augmenter de 25 à 50% selon l'évolution du conflit au Moyen-Orient. Ça fait un surcoût de facture allant de 260 à 525 euros avec des régions plus vulnérables que les autres, la Moselle, le Nord, la Meurthe-et-Moselle. Le coût annuel des différents modes de chauffage, si jamais les prix du gaz augmentent de 25%, eh bien c'est toujours la pompe à chaleur qui reste la plus attractive, 1500 euros par an, devant les radiateurs, 2700 euros par an. Le chauffage au gaz à 2860 euros par an. Et puis, la chaudière au fioul qui, là, reste la plus onéreuse à plus de 3000 euros par an.
BFM Business, la librairie de l'écho, le coup de cœur de la rédaction.
Et c'est celui du roi de la tech à BFM Business, Frédéric Simotel. Cher Frédéric, Apple fête ses 50 ans. Un incroyable, finalement, une incroyable saga technologique avec des produits comme l'iPhone. Il n'y a pas une entreprise qui a autant changé nos vies qu'Apple.
Non seulement au niveau de la technologie, mais aussi de la société,
de notre
façon générale.
Mode de vie, absolument. Alors, plusieurs livres, plusieurs documentaires. Vous avez choisi d'en retenir un. Ça s'appelle Apple, The First 50 Years de David Pogge. Alors, ça n'existe pour le moment qu'en anglais. Mais franchement, ça se lit très bien.
Oui, ça se lit très bien. Oui, c'est assez bien écrit. Et même si vous avez un niveau moyen en anglais, vous pouvez tout à fait parcourir ce livre. Donc, David Pogge, c'est un des grands spécialistes d'Apple. C'est un journaliste du New York Times qui a suivi pendant 15 ans Apple. Il a écrit plus de 120 livres sur la tech, beaucoup sur les produits Apple, en tout cas sur l'iPhone, sur l'iPad, etc. Et puis donc, il met en lumière dans ce livre toute la culture un peu subversive d'Apple. 150 interviews. Alors évidemment, dedans, il y a Steve Wozniak, il y a John Sculley qui avait évincé Steve Jobs, il y a Johnny Ive, l'un des plus grands designers de la maison. maison, des responsables designers, des ingénieurs. Il y a plein de photos aussi. Et donc, on revient sur cette histoire, 1er avril 76. Ils sont trois. Steve Jobs, qui va, lui, va s'occuper plutôt de la vision produit, la commercialisation. Steve Wozniak, c'est lui le technicien de la bande. Et puis, tiens, un troisième dont on parle jamais, Ronald Wayne, qui avait un rôle administratif. Ronald Wayne, il était un peu plus âgé. Mais Ronald Wayne, pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'au bout de 12 jours, il a revendu ses actions en disant, les gars, c'est trop risqué. Moi, je vais pas avec vous. À l'époque, il a revendu ça à 800 dollars. Aujourd'hui, ça vaudrait 400 milliards. Alors, je sais pas ce qu'il fait depuis, mais en tout cas, voilà, il est passé à côté de quelque chose. Et donc, c'est le premier ordinateur. C'était pas un ordinateur en tant que tel, hein. C'était vraiment une carte mère. Et derrière, il fallait être un peu geek. Il fallait aller acheter un boîtier, un écran, un clavier. Et puis donc, l'histoire, on défile tout ça. L'ordinateur grand public, le retour de Steve Jobs, parce que Steve Jobs a été évincé.
Oui, il faut rappeler qu'il a été viré.
Ouais, il a été viré par John Sculley.
Puis rappelé,
5 ans plus tard. L'écosystème numérique, donc tout ce qui s'est mis en place autour de iPod, l'iTunes, etc. Le smartphone qui devient, comme vous l'avez dit, un élément de société, notre ordinateur principal. Mais et puis les plateformes, là, aujourd'hui, l'Apple Silicon et l'IA.
La question que tout le monde se pose, Frédéric, ça a été de dire, finalement, depuis que Steve Jobs n'est plus là, la capacité d'innovation d'Apple, l'innovation produit, qu'est-ce que Apple a sorti de vraiment nouveau, finalement, depuis l'iPhone? Pas grand-chose, et donc on se dit, mais c'est quoi la suite pour Apple?
Et c'est ça qui est intéressant, parce que le livre, justement, c'est les Apple, les First 50 Years, donc c'est les 50 premières années. Donc on se dit, on va se projeter. En fait, le livre, il est à lire en deux lectures. La première lecture, c'est l'historique, on nous raconte toutes les histoires et tout ça. Et derrière, on essaie de lire entre les lignes un peu qu'est-ce qui fait l'ADN d'Apple et qui va continuer à se poursuivre. Le premier, c'est le futur d'Apple, ça va continuer par ses invariants. Hein. Apple, c'est une intégration hardware, software, service, une obsession du design, de la simplicité, hein, la technologie. Techno doit être invisible, un contrôle serré de l'écosystème. Vous savez, on parle toujours de l'Apple Store avec tous ces gens-là. Et puis, les lancements de produits qui créent vraiment des nouveaux usages. Le Mac, l'iPod, l'iPhone, etc. L'innovation chez Apple, il faut comprendre qu'elle est cyclique, elle n'est jamais linéaire. C'est tout d'un coup, il y a un nouveau produit, un nouveau Mac, un nouveau téléphone, un iPhone. Et puis, derrière, on va optimiser, on va améliorer tout ça. Après, il y a le rôle de la culture interne. Chez Apple, on discute beaucoup, on s'engueule, mais quand même, malgré tout, il y a une décision centralisée. Et le livre met aussi en lumière les limites actuelles, les échecs. Et puis en ce moment, on est en plein dans un virage IA qui n'est pas vraiment pris. On se pose beaucoup de questions, plus même la succession de Tim Cook. Et donc, on se rend compte, tout ça, ça nous dit Apple gagne quand il change de catégorie.
Le perfectionnement, c'est pas Apple.
Un jour, il s'est dit...
L'invention, c'est Apple.
Il faut changer l'ordinateur. Ils sont venus au Macintosh. Il faut changer la façon d'écouter de la musique, c'est l'iPod, c'est l'iTunes. Il faut changer la façon de la mobilité, de communiquer, c'est l'iPhone. Et donc aujourd'hui, ça va être quoi le prochain? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est les énergies renouvelables? On attend tout ça. Apple évolue lentement en surface, mais à l'intérieur, c'est des révolutions profondes. Et c'est ce qu'on comprend à travers ce livre qui est assez intéressant. Je le rappelle, Apple, The First 50 Years de David Pogue. Voilà, c'est une autre lecture de l'histoire d'Apple assez intéressante.
Merci.
Je le conseille.
Merci beaucoup, cher Frédéric. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Allez, Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui?
Je reste dans le thème, donc il y a un petit repère qui est sorti par la professeure d'économie Stéphanie Leguérodi qui s'appelle Introduction à John Kenneth Galbraith.
Voilà.
Donc là, vous aurez sa vie, son œuvre et surtout, comme c'est une économiste qui l'a écrit, vous aurez vraiment un beau descriptif très pédagogique, très analytique de toutes les idées de Galbraith. C'est vraiment la meilleure introduction pour moi à l'œuvre de Galbraith.
Magnifique.
Hormis la lecture des livres de Galbraith.
Ouais, bien sûr. Marc Daniel.
Ouais, je suis aussi dans la même logique. Moi, ce que je recommande, c'est la lecture de ses mémoires. Ça s'appelle Une vie dans son siècle. Et donc, alors là, c'est véritablement un festival. Il raconte sa vie, mais avec toutes les formules. Donc, qu'est-ce qu'il a parlé là? Il n'y en a pratiquement pas une par page. Enfin, c'est vraiment tout ce côté très British, cet humour. Et on voit aussi que c'est quand même quelqu'un qui a eu des positions assez courageuses, notamment sur la guerre du Vietnam. Ouais. Il s'est opposé à la dérive de l'administration démocrate, alors qu'il était a priori très très favorable à cette administration. Donc c'est quelqu'un qui avait aussi une certaine colonne vertébrale sur le plan intellectuel et humain.
Formidable. Écoutez, vous nous avez donné encore plus envie de le lire. Allez, moi je voulais vous parler de ce petit manuel d'économie impertinente réalisé par notre ami Gilles Raveau, le professeur d'économie. C'est pédagogique, c'est brillant, c'est du béton sur le fond, c'est très ludique sur la forme. un petit manuel donc qui nous explique tous les principes fondamentaux de l'économie, mais dans une version très moderne, avec un style qui procure un vrai plaisir de lecture, ce qui n'est pas si fréquent pour un manuel. C'est aux éditions First. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture !